France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Chef étoilé, meilleur ouvrier de France, vous avez deux établissements à Bordeaux et vous êtes le roi de la cuisine à la télé depuis 10 ans.
12.
J'adore le gars, tu sais jamais s'il va casser des œufs ou casser des gueules.
C'est important d'avoir une grosse voix, mais c'est important de pas avoir à s'en servir tout le temps.
On est dans la cuisine de Mentor. J'ai fait 100 recettes qui pour moi étaient indispensables, que vous retrouverez dans un livre, mais aussi à travers des vidéos.
Quel est votre plat préféré et pourquoi ?
Bon, l'île flottante, parce que c'est régressif, parce que c'est un dessert que j'aime faire et que les gens adorent.
Monsieur Etchebest.
On y va ? Allez, c'est parti.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster pour une nouvelle masterclass. Les masterclass dont on va déguster, c'est le nouveau rendez-vous que nous avons inauguré en mars dernier avec Anne-Sophie Pic, la seule chef 3 étoiles Michelin de France. Et pour le deuxième numéro de ce format très spécial, c'est au tour d'un des chefs les plus populaires de France, Philippe Etchebest. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci d'avoir trouvé dans votre emploi du temps diabolique un moment pour être avec nous dans le studio 621 de la Maison de la Radio qui accueille d'ailleurs notre cher public. Bonjour.
Ah, ils sont chauds.
Quand je disais emploi du temps diabolique, c'est rien de le dire. Vous jonglez, Philippe, entre deux tables étoilées de Bordeaux, des émissions sur M6, notamment Top Chef et Cauchemar en cuisine, évidemment, des réseaux sociaux avec 1,2 million de followers sur Instagram et une chaîne YouTube à succès, et un livre best-seller, je le tiens dans ma main droite, dont votre maison d'édition Albin Michel vient de faire paraître une nouvelle édition augmentée. Cuisiner bien accompagné avec ma méthode mentor. Quand je dis best-seller, c'est rien de le dire ?
Oui, je crois. Enfin,
combien d'exemplaires ?
Il y a plus de 200 000. Donc je trouve que c'est pas mal pour. Apparemment, c'est pas mal pour un livre de cuisine.
Ça pèse lourd, ouais. En effet. Bon, je vous présente les règles du jeu, Philippe.
Allez, on y va.
On va vous cuisiner pendant une heure avec nos questions, des surprises à goûter, avec également notre mythique séquence de la plaque de cuisson sur laquelle vous allez nous faire une petite démo culinaire. Mmh. Et deux chroniqueurs pour vous passer sur le grill, Céline Maguet, Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Céline. À tous.
Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler du sport qui fait rimer ballon et grand gueuleton. Et il me semble que c'est un sport que vous affectionnez particulièrement, Philippe.
Et un ballon d'une forme un peu particulière, si vous voyez ce que je veux dire, cher Philippe. Jérôme, notre Bordelais, oui, vous habitez à Bordeaux, vous Exactement. Êtes un voisin de Philippe Etchebest.
Tout à fait, et donc je répondrai au classicisme de la leçon de cuisine de Philippe par un vin d'un grand classicisme que j'aime énormément.
Et pas forcément dans le vignoble bordelais, c'est ce qu'on va voir.
Tout à fait.
Pour retrouver nos masterclass et tous nos contenus, podcasts, recettes, les bonnes adresses de notre émission, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, les masterclass dont va déguster François-Régis Gaudry.
Bonjour. Bonjour chef Etchebest.
Comment ?
Bonjour chef Etchebest, monsieur Etchebest. Bonjour monsieur Etchebest.
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 Non. Best.
Betz.
The best.
Je best. Etchebest. The...
Voilà.
Bonjour Etchebest.
Nous sommes donc avec le chef Philippe
Etchebest.
Et ben voilà, notre public le prononce bien.
Bah oui, c'est pas très compliqué.
Non. C'est pas si compliqué.
Etchebest, c'est ça ?
Non, je dis plus rien de toute façon.
Un patronyme, cher Philippe, qui est d'origine basque, c'est
Absolument.
Bien ça ?
Absolument. Etchebest, qui veut dire maison nouvelle.
C'est d'ailleurs le nom d'un de vos établissements, enfin de la maison d'hôtes plus particulièrement.
Voilà, maison nouvelle que j'ai ouvert au Chartron à Bordeaux. Ouais,
première séquence de cette masterclass, on brosse votre portrait en trois traits. On a choisi un mot, une date, une curiosité culinaire, et on voudrait évidemment une réaction de votre part.
Ouais.
Le mot, vous êtes prêts ?
Ouais.
Chipiron.
Alors Chipiron, c'était le restaurant de mes parents. J'y ai grandi et j'ai fait mes premières armes.
Parce que vos parents étaient restaurateurs,
Tout
ils se
fait.
Sont installés en 1979, si je ne m'abuse, à Bordeaux.
Absolument, près du marché des Capucins. Oui. Marché de Migros à l'époque. C'était un marché incroyable et mon père y allait tous les matins et j'allais avec lui.
Cuisine basque ?
Bien sûr, le merlu salsa verde, toutes ces choses-là.
Il paraît
la soupe de poisson, le turo.
Et oui.
La meilleure de Bordeaux.
Ça a duré jusqu'à quand cette aventure ?
Jusqu'en les années 2000.
Et il paraît que vous aidiez votre père après l'école ?
Ah oui, 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 oui. Après l'école, dès qu'on rentrait de l'école, on donnait un coup de main à mes parents. Ma sœur était en salle. On avait 11-12 ans à l'époque quand on a commencé. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens et bon, fallait les aider. Donc moi j'aidais mon père en cuisine et ma sœur est habillée en basket, je me rappelle, en petite basket en salle. On a été vite plongé dedans très jeune.
Vous avez évoqué, Philippe, à plusieurs reprises votre papa dans des interviews et vous avez dit ceci: mon père m'a transmis le goût de l'effort, de la rigueur et du mérite. Très avare en compliments, mais il avait une éducation stricte et juste.
Oui, mon père disait toujours, quand je dis rien, c'est que ça va. Bon, comme ça, le ton est posé. Et je dis souvent, c'est le premier compliment, enfin, la première fois où il m'a dit qu'il était fier de moi, c'est quand j'ai été meilleur au Air France. Donc j'avais 33 ans, et ça fait drôle.
Est-ce qu'il y avait des chipirons sur l'ardoise du chipiron?
Ah oui, 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 chipiron à la basquaise.
Alors, redéfinissez-nous un chipiron pour ceux qui ne sont pas du sud-ouest ou du Pays Basque.
C'est petit calamar, voilà. Et c'était farci avec les tentacules, avec des échalotes, avec de la mie de pain trempée dans du lait, fermé avec un petit cure-dent, je me rappelle, sauté à la graisse de canard. Et après, on les faisait cuire dans un bouillon de poisson tomaté. Et c'était fabuleux. Et on les faisait aussi en sous tinta, donc c'était avec l'encre des chipirons qu'on récupérait. Et on noircissait la sauce avec l'encre. C'était fabuleux.
Il y a encore régulièrement du chipiron au menu de vos restaurants, Philippe ?
Ben non, j'en travaille pas tant que ça, en fait, du chipiron. Alors, parfois, la brasserie, on en met. J'en ai fait tellement de caisses aussi quand j'étais petit, quoi. Donc, j'en suis pas dégoûté, loin de là, loin de là. Mais c'est vrai, c'est pas un produit que je fais souvent.
Il tourne en rond avec le chipiron, c'est ça ? Allez, on passe à la date ?
Ouais.
2000 ?
2000, année du meilleur ouvrier de France, qui était à l'époque présidé par Joël Robuchon et Paul Bocuse. C'est une grande fierté pour moi. Et c'est vrai que c'est l'année des JO en France, et je compare souvent le concours du meilleur de France aux Jeux Olympiques, parce que le concours de meilleur de France est au cuisinier ce que la médaille d'or des Jeux Olympiques est au sportif, et c'est complètement assimilé pour moi. C'est une reconnaissance incroyable, une compétition, une vraie compète qui demande à puiser dans ses ressources. Et au-delà d'être technique, il faut un gros mental aussi, c'est très important. Mais en tout cas, c'était une expérience incroyable pour moi.
Et ça représente combien de temps de préparation ?
Alors, pour les demi-finales, on avait 12 jours de préparation. C'était la sole André Moreau soufflée au poire en croûte. Je me rappelle très bien du thème très classique sur une base escoffier. Et la finale, c'était sur 5 jours de préparation seulement. Ça a changé depuis, mais à l'époque, c'était ça. Et le thème, c'était le caviar pressé, le canard au sang, foie gras navet et la fraise. Voilà. En fait, que 3 entraînements j'ai pu faire parce que le temps de réflexion et puis après, il fallait y aller à Strasbourg. Hein, c'était à Strasbourg qu'on faisait le concours. Donc
très peu de préparation.
En fait. Mais en fait, moi, c'est ce que j'aime. C'est être un peu acculé comme ça. Moi, j'adore ça. Et ça donne les mêmes chances à tout le monde, finalement, parce que moi, j'étais chef dans au Château Grand Barail à l'époque. J'avais une brigade de 3 mecs et je me préparais après les services, l'après-midi, la nuit, donc avec peu de moyens. Et souvent, quand on fait des concours, quand on est face à des grosses structures où un gars peut se dégager par exemple un mois et ne faire que ça, ben forcément à un moment donné on arrive à faire le plat. Là je trouve que c'est bien, ça met tout le monde à peu près au même niveau et finalement à un moment donné dans ces épreuves là aussi ce qui doit ressortir c'est le métier de cuisinier. Voilà, on sait cuisiner ou on sait pas, on sait tenir un couteau ou on sait pas non plus.
Mais il paraît justement que vous êtes blessé pendant l'épreuve.
Oui, je me suis coupé 15 minutes après l'épreuve, je me suis entaillé très très fort le doigt avec un désosseur et c'est là aussi où justement il faut que le mental soit très très fort, il faut pas se laisser déstabiliser. Donc action réaction vite et puis voilà, et puis on tape dedans quoi.
Et ça n'a pas été rédhibitoire manifestement. Vous êtes allé au bout du concours avec désormais le col tricolore que vous arborez tout en haut de votre veste et qui désigne évidemment les meilleurs ouvriers de France. On finit, Philippe Etchebest, avec une curiosité culinaire et un indice sonore.
Alors maintenant, c'est, on va dire, la séquence importante. C'est l'eau magique, c'est de l'eau de mer fermentée, et celui-là, c'est aux langoustes.
Wow, la classe quand même,
ouais.
Non ?
Du coup, on a mis des pâtes de langoustes à l'intérieur, et on a fermenté pendant un mois.
Oh putain. Oh la vache. Ah c'est bien, attends, j'y retourne, parce que là, il faut avoir les narines musclées, là, non ?
Oui.
Oh putain, mais ça pue, en fait, je suis désolé, mais...
Mais en bouche, c'est excellent.
Peut-être, j'espère.
Vous vivez dangereusement, Philippe Etchebest.
Oui.
C'était un extrait du premier épisode de votre série documentaire diffusée en novembre 2023 sur M6, Un chef au bout du monde, qui se passait aux îles Marquises en Polynésie française, avec d'excellentes audiences d'ailleurs en deuxième partie de soirée.
C'est ça. Absolument.
Et vous vous êtes frotté à cette étrangeté culinaire.
Absolument. Alors, je reviens sur ce film documentaire d'un chef au bout du monde. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'était de rencontrer des gens, de découvrir ces cultures culinaires et parfois ancestrales. Et c'est vrai que là, j'ai été très surpris par ce fafarou parce que moi, j'avais retenu que langouste. Donc, je dis, ouais, langouste, c'est classe. Et eau de mer, bon, pourquoi pas, mais j'ai oublié fermenter. Mais là-bas, le fafarou, c'est, quand je dis violent, c'est violent.
Mais vous avez même déclaré une odeur de fausse sceptique.
Mais vraiment. C'est pas du tout insultant, hein, mais c'est la référence que j'avais moi. Mais eux, le mange, mais comme ça, quoi. Voilà, c'est naturel chez eux, donc c'est une éducation au palais que moi je n'ai pas et que beaucoup d'autres n'ont pas de toute façon, mais voilà, c'est comme quoi.
Et en bouche,
c'est un apprentissage. C'était aussi fort que le nez.
Mais là, il y a eu un peu refus d'obstacle de votre part.
Ouais, j'y étais deux fois, et même avec le lait de coco qui était le meilleur lait de coco que j'ai mangé, c'était là-bas, que j'ai bu. Incroyable, c'était une crème, mais même avec le lait de coco, J'ai eu beaucoup de mal.
Du poisson cru mariné dans de l'eau de mer fermentée avec de temps en temps des crevettes d'eau douce. Là, en l'occurrence, c'était des pattes de langouste. Et effectivement, Philippe Etchebest a moins fait son malin.
Mais c'est une expérience devant le fafarou. Extraordinaire, je tiens à le préciser. J'ai une chance énorme de pouvoir faire ce film documentaire où j'apprends énormément de choses.
Et par ailleurs, effectivement, ce documentaire montrait toute la richesse incroyable. J'ai vu d'ailleurs qu'il était en ligne sur le web. Ce documentaire incroyable aux îles Marquises avec une diversité culinaire et des savoirs faire ancestraux de toute beauté. Ouais. Pour mitonner cette masterclass dont on va déguster, il y a derrière nos fourneaux notre réalisatrice Laurane Thomas avec Thomas Langlin et Fabrice Ribault. On se retrouve juste après Le Silence par le groupe français Junior. On est bien avec Philippe Etchebest sur France Inter.
À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi? Dans ce silence, parfois, quand le vide est si dense qu'il ne désemplit pas, à force de prudence, ça risque de jeter un froid. Est-ce que t'y penses sans langue de bois, quand le crépuscule est immense, que le temps finit pas? Je le dis sans ambivalence. Ici et toi là-bas, c'est vrai que j'ai tendance à penser que ça va de soi. Je me dis tout en nuance, quand je suis ici et toi là-bas, il y a des chances que tu penses à moi qui pense à toi. Quoi tu penses? La distance on s'habituera. Et l'absence, tu crois, et le chacun pour soi. Avant la prochaine séquence, le prochain faux pas. À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Si je m'avance, renoncer tout et n'importe quoi, balancer l'indifférence, la crise de foi. Est-ce que tu flanches? Tu penses à moi qui pense à toi. Vers quoi tu penches pour revoir l'envers à l'endroit, quand la nuit est si blanche qu'elle ne dégrise pas?
Déguster.
Alors je vais vous expliquer un truc. Essayez d'être patient avec les gens quand vous aidez dans Cauchemar en cuisine. Restez calme, un peu de zen.
Mais je suis patient. Mais tu n'imagines pas la patience que j'ai.
Et en plus, on dirait pas.
Ah ben on dirait pas parce que...
Mais vous avez été impatient quand vous réagissez comme ça. Ça, ce n'est pas nécessaire. J'ai dit ça pour vous aider.
Je m'excuse. Je suis désolé.
Vous vous rappellerez ce que je vous ai dit jusqu'à demain.
Je vais bien m'en rappeler, oui.
Un extrait des Rencontres du Papotin, l'émission de France 2 à laquelle Philippe Etchebest, vous avez participé en avril. Je rappelle que le principe de l'émission est de répondre à des questions de journalistes non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique. Et dans cet entretien, la fameuse Claire, hein,
c'était fabuleux,
qui s'est taillée une belle réputation d'intervieweuse quand même, vous recommande d'être patient. C'est une leçon de vie, ça ?
Oui, mais il faut l'être patient, c'est vrai. Alors c'est vrai que j'ai l'image d'un chef qui rentre dedans et qui gueule. C'est l'image qu'on m'a donnée à travers Cauchemar en cuisine, bien sûr, et puis quand c'est ancré, c'est ancré, mais c'est pas du tout mon quotidien, je suis pas comme ça, et mes réactions parfois dans Cauchemar en cuisine, elles sont nécessaires pour faire vriller les gens, en fait c'est plus de la psychologie un peu dure, pour faire prendre conscience des choses, mais je suis pas du tout comme ça.
Il y a aussi votre boule à zéro, il y a quand même votre carrure d'armoire à glace, Philippe Etchebest, ouais, qui fait qu'on n'a pas trop envie de vous embêter, il y a un côté un peu fort en gueule, et en même temps tous ceux qui vous connaissent bien dans l'intimité, et j'ai évidemment posé des questions aux chefs qui vous accompagnent dans le jury de Top Chef, etc. Tout le monde dit que vous êtes effectivement, on va pas dire un bisounours, mais en tout cas un grand sensible, oui, avec beaucoup de bienveillance. Il est où alors le vrai Philippe Etchebest ? Il est un peu entre les deux ?
Non, je pense que le vrai Philippe Etchebest, c'est de la bienveillance et de protéger les autres. J'ai toujours été comme ça, mais finalement, même dans ce que je fais dans le cauchemar, c'est pour aider les gens. Mm-hmm. Et c'est plus de ce côté-là que je me vois. Voilà.
Moi, je pense que je réagirais comme vous, c'est-à-dire qu'il y a des moments d'agacement, il y a des moments où vous avez tellement donné vous-même en cuisine pour vos concours, pour vos restaurants, que vous avez un peu de mal à accepter la médiocrité des autres quand vous vous rendez compte qu'ils ne se donnent pas forcément la peine qu'ils devraient se donner. Donc cette image de réagir et de grande gueule, elle a probablement un peu de fond quand même.
Oui, elle a du fond, mais aussi ce qui me met en colère parfois, c'est la méconnaissance. Ouais. Parfois, il y a des gens qui se retrouvent à la tête de restaurants alors qu'ils n'en ont pas les capacités techniques et ni les moyens. Et c'est ça parfois qui est désolant. Mais malgré tout, moi je suis là pour les aider, donc il faut que je trouve des solutions. Pour ça aussi que derrière, on paye beaucoup de formation. La formation pour moi, elle est extrêmement importante. Des formations longues, diplômantes, pour pouvoir accéder aux ouvertures de restaurants. Pour moi, c'est indispensable.
Céline Maguet.
On sent chez vous que justement la transmission c'est une valeur forte en cuisine, et on sait aussi que la cuisine connaît pas mal d'affaires de violence qui sortent en ce moment. Qu'est-ce que ça a changé vous dans votre façon de transmettre ?
Alors déjà, à titre personnel, c'est pas des choses que j'ai connues à travers mes apprentissages, la violence. J'ai rencontré des chefs qui savaient ce qu'ils voulaient aussi, mais ça c'est bon, c'est un peu normal, mais jamais de violence. Et puis dans mes établissements, c'est pas du tout ce que je fais non plus, je préconise, bien au contraire.
Et vous parliez de votre père qui était avare en compliments. Est-ce que, justement, vous, dans la façon dont vous transmettez, vous avez peut-être... Vous parlez de bienveillance. Comment est-ce que vous mettez ça en place ?
Ben, la bienveillance, elle est dans l'accompagnement, je pense. Hein, justement, c'est de ne pas avoir peur d'insister sur la répétition pour bien faire assimiler les choses. Vous voyez, d'être patient, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que c'est primordial. Pour moi, c'est un manque d'assurance. Quelqu'un qui crie dans une cuisine... Dans un cadre normal, je reviens, on met de côté cauchemar en cuisine, hein, bien sûr. Mais dans le quotidien, il n'y a pas besoin de crier, franchement. Je veux dire, un regard suffit.
Vous êtes prêt, Philippe Etchebest, pour une nouvelle séquence ?
Je suis prêt.
Que l'on a baptisé le troc gourmand. Le principe, vous nous faites découvrir une surprise comestible. Et en échange, on vous fait découvrir notre surprise avec la participation de notre public. Alors, on va commencer avec votre surprise, si okay. Vous le voulez bien. Je précise que Céline, du public, nous a rejoint pour nous aider à déguster. Bonjour Céline.
Bonjour.
Vous nous venez d'où ?
De Colombes, des Hauts-de-Seine.
Enchantée, merci d'être là.
Avec plaisir.
Est-ce que vous avez le palais bien affûté ?
Ah, je suis prête.
Bon. Alors Philippe,
ça va être un bon test.
On n'en dit pas plus.
Alors tout de suite, vous allez mettre cette gélule sur la bouche et avec la salive, elle va fondre.
On parle voilà. Quand même d'une gélule, hein, c'est la punition.
Je vais expliquer au fur et à mesure. Donc la salive va faire fondre cette capsule de tapioca. En fait, c'est une version dystopique de mon plat signature, la raviole de foie gras aux champignons. C'est une gélule qu'on sert à l'apéritif, à Maison Nouvelle, dans mon restaurant gastronomique. Vous allez découvrir des saveurs.
Oula, ah ça monte.
Qu'est-ce que vous ressentez ?
Céline !
Qu'est-ce que vous ressentez comme saveur ? Si je vous dis...
Le champignon ?
Exactement, bien.
Ah ouais.
Champignon. Premier en bouche, hein,
il y a les arômes tertiaires, un peu de sous-bois du champignon.
Tout à fait, champignon.
Intéressant, c'est loin en bouche.
Je cherche.
C'est la grande.
C'est très progressif en plus.
Oui, c'est progressif. Mmh. C'est le champignon qui arrive en premier. En plus,
il y a de la douceur.
On a l'ail.
Il y a de la rondeur, il y a de l'ail.
On a le persil.
Ouais.
En fait, c'est tout ce qu'on retrouve dans ce plat signature qu'est la raviole de champignon au foie gras. Ouais. On a le goût, mais en fait, on n'a pas le plaisir. Et c'est une façon, finalement, de dire quelle sera la nourriture du futur. Peut-être que ce sera ça, mais le plaisir n'y sera plus. Donc, après, dans le repas, forcément, cette raviole de foie gras est servie. C'est le seul plat qui ne change pas. Et on retrouve, c'est le petit pont que je fais avec ces gélules de conserve à l'apéritif et la raviole de foie gras,
y a quand même
version haute couture qu'on retrouve sur la table.
Il y a quand même l'intensité aromatique et la profondeur presque umami,
oui,
qui apporte une certaine satisfaction.
Mais l'intérêt, c'est de retrouver le goût. Quand même, il ne faut pas que ce soit non plus gratuit de faire ça. Il faut que le goût soit là.
Là, il n'y a pas de foie gras dans la gélule.
Alors, il y a un petit peu de gras, de foie gras déshydraté, mais c'est très léger.
Céline ?
Oui.
Vous êtes prête à vous nourrir aux pilules de l'apothicaire Etchebest ou pas ?
Oui, moi j'ai trouvé ça très sympa. Ça démystifie un peu le médicament, parce que c'est vrai qu'il n'y a que comme ça. Moi, si j'avais ce genre de médicament, moi, ça m'irait bien. Le goût qui reste en bouche est très agréable aussi. L'ail est venu effectivement.
Ouais, moi, je l'ai encore là.
Ouais, voilà, exactement. Et du coup, c'est très agréable.
Expérience très intéressante. Merci Céline pour votre participation.
Merci,
on va d'ailleurs appeler un gourmet à ce micro, car c'est à notre tour, cher Philippe Etchebest, de vous faire goûter une surprise gourmande. Est-ce que vous êtes prêt ?
Je suis prêt.
Bonjour Gilles.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêt Gilles ?
Oui.
Pas d'allergie ?
Non.
Parce que c'est à l'aveugle.
Ah.
Non, mais vous pouvez... Non, enfin, quand je dis à l'aveugle, vous pouvez utiliser vos yeux, mais en tout cas, vous n'avez pas l'identité du produit. Bah, allez, on va qualifier ce liquide d'élixir.
Ouais. Je crois savoir ce que c'est. Je peux le dire ou pas ?
Bien sûr.
C'est pas une base de soja ?
Bon. Eh ben, Philippe Etchebest a plié le match. Il s'agit effectivement d'une sauce soja. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Elle est particulière.
Ouais.
Elle est très particulière.
Elle est un peu plus acide qu'une sauce soja habituelle.
Ouais.
Il y a un petit fond, je trouve, de... Là, je vais essayer de faire le savant, mais un petit fond d'ail, un petit fond plus marin, plus iodé.
Ah, intéressant. Alors, il n'y a pas d'ail. Mais en revanche, elle se caractérise effectivement par une salinité très longue.
Oui.
C'est vraiment
Jérôme Gagnès.
Une des sauces les plus concentrées qui m'était donné de goûter en termes de sauce soja. Elle est d'une intensité impressionnante.
Il y a un côté un peu de Walkman aussi.
Oui, on est effectivement sur le même terrain aromatique, de ces arômes très fermentaires.
C'est drôle que vous me fassiez goûter cette sauce soja. Dans le cadre d'un chef au bout du monde, j'ai été au Japon, là, au mois d'avril.
Oui.
Et j'ai été visiter un fabricant de sauce soja, qui est très particulier. Il met dans ces espèces de foudre en bois sa fermentation pendant 4 années. C'est incroyable. J'ai découvert la fabrication de la sauce soja, mais d'une manière artisanale exceptionnelle. Et ça fait partie d'un 1% de la production nationale de sauce soja. C'est le seul à faire ça. C'est incroyable et c'est super intéressant.
Alors, on n'a pas tout dit sur cette sauce soja. Non. Savez-vous, Philippe Etchebest, d'où elle vient ? Je préfère vous dire tout de suite qu'elle ne vient pas de l'archipel nippon.
Mais alors, est-ce qu'elle a été travaillée, en fait ? Est-ce que c'est...
C'est de la...
Ou c'est pure sauce soja, alors, sortie de bouteille ou
c'est une sauce soja que l'on qualifie de blanche, parce qu'elle est assez claire. Donc, c'est pas une sauce soja sombre ou noire.
Ouais.
Et la sauce soja blanche se distingue de la sauce soja noire par le fait que... À majorité, elle est composée de blé. 80% de blé, 10% de soja. Mais ce n'est que du blé, du soja, du sel, et évidemment de l'eau et le koji, qui est ce fameux ferment à base de champignons,
qui
permet la fermentation.
Exactement, ouais.
Mais il n'y a rien d'autre.
Il n'y a rien d'autre. Alors ce serait génial si ça venait de France.
Oui, et plus particulièrement
Bordeaux.
Bordeaux. Bravo,
mais
bravo Gilles.
Il faut que vous me donniez l'adresse.
On va vous donner l'adresse en fait.
On l'a piégé, c'est Saint-Émilion. Alors, il y en a un qui est de mèche.
En fait, hier, je reçois un coup de téléphone d'un vigneron qui me dit salut, dis donc, tu vas parler demain de ma sauce soja. François me dit, on fera goûter à Philippe et au plateau un truc surprise. Donc évidemment, après le coup de fil d'Adrien David Beaulieu, je dis, bah j'ai compris, c'est ce que va faire goûter François. Donc ça vient du château Coutette, à Saint-Émilion, qui est une propriété extraordinaire sur le plateau calcaire. Oui. très connu et très réputé au Japon.
Adrien, David Beaulieu et sa femme Madina Kerr à la tête effectivement du château. On dit coup-tête, hein.
On dit château coup-tête. Ouais,
d'accord, ouais. Château coup-tête, ça finit par T-E-T, mais ouais, c'est château coup-tête en effet. Ils se sont lancés ce défi fou de créer une sauce soja dans la pure tradition japonaise avec Tichiro Shinko. Shinko, c'est d'ailleurs le nom de cette sauce soja, et Shinko, c'est un artisan nippon issu d'une famille qui exerce l'art du soyu, de la sauce soja, depuis 800 ans sur l'archipel.
Et c'est Yuasa au Japon.
Voilà, et c'est fait avec, attention, du blé et du soja local et biologique, et du sel de l'île de Ré.
Oh.
Une bouteille cadeau pour Philippe Etchebest, une bouteille cadeau pour Gilles.
Superbe.
Super.
Voilà, vous êtes content.
Ah ben, carrément.
Et je préfère vous dire, je ne veux pas faire les intermédiaires, parce que je ne suis que journaliste,
merci,
mais je préfère vous dire que Adrien David Beaulieu n'attend qu'une chose.
Ah mais oui.
Ce serait que vous alliez le voir et que vous travailliez avec ces sauces soja.
Bien sûr, bien sûr.
Elles sont remarquables et purement bordelaises.
Ah, c'est fabuleux, ouais, bah, j'irai le voir, oui, bien sûr.
Toutes les très infos boulot pour se procurer cette sauce soja qui est entièrement biologique,
et
évidemment,
est très joli,
et locale, sur la page internet de notre émission, la sauce soja Shinko.
Un superbe produit.
Très beau produit.
Un produit exceptionnel, et qui est un magnifique jumelage artisanal entre le Bordelais et le Japon.
On va déguster. Sur France Inter.
Ce n'est un secret pour personne, Philippe Etchebest a évidemment la passion du rugby, il a aussi la carrure pour jouer à ce sport qu'il a pas mal pratiqué, Céline Maguet.
Pendant 17 ans.
Et en même temps, s'il y a bien un sport qui fait bon ménage avec la cuisine, c'est le rugby.
Absolument.
Et ce, depuis le jour de sa naissance en Angleterre. Parce que nous, en bon français, on pourrait se vanter et dire que nous aussi, on avait en France l'ancêtre du rugby. Il s'appelait la soule et se jouait avec une poche de cuir remplie de paille. Ouais. Mais le rugby, le vrai, est né au collège de rugby en Angleterre, quand un élève s'empara du ballon de foot avec les mains et fonça vers le but. Après chaque match, avait lieu un grand banquet entre les équipes adverses, une façon d'apaiser les esprits après les avoir échaudés sur le terrain. Cette tradition du repas d'après-match, elle s'est ancrée dans toutes les nations du rugby, au point de faire partie intégrante de sa culture. Elle a même un nom, la troisième mi-temps.
Eh oui.
Car passer à table, c'est baisser les armes. Le rugbyman Jean-Pierre Rive disait « Quand tu enlèves le ballon, il reste les hommes ». Et il suffit d'une anecdote pour lui donner raison. En 95, la France et l'Angleterre s'affrontent pour la troisième place du tournoi des Cinq Nations. Les Français enchaînent les défaites et les Anglais ne sont pas des plus tendres avec eux. Alors quand le 15 de France gagne finalement ce match, c'est dans la liesse générale. Et ça, ça plaît pas trop aux Anglais. Alors cette fois-là, les équipes font l'impasse sur le traditionnel banquet, mais se retrouvent pourtant dans le même restaurant. Hasard. Ambiance aussi, qui se réchauffera au fur et à mesure de la nuit, des plats et des pintes. En fait, si le rugby à 15 a longtemps rimé avec ripaille, c'est aussi parce qu'il n'était pas pratiqué en pro. Les joueurs n'étaient pas payés, ils se retrouvaient en amateur pour partager un bon moment. Sur le terrain comme après. Manger, ça prenait autant de place que jouer. Et puis en 95, le rugby se professionnalise, les repas de légende sont surveillés et l'entraîneur veille au grain. Quand Jacques Fourou arrive à la tête du 15 de France, il impose le régime sec, fini le vin et la viande rouge, bienvenue carottes râpées et poireaux vinaigrettes. D'ailleurs, quand les joueurs avaient fait un mauvais match, Jacques Fourou avait une drôle de façon de les punir, il les privait de fromage.
C'est dur.
On est bien bien loin du menu servi après le match France-Pays de Galles de 1928. Petite marmite, truite saumonée froide à la parisienne, cœur de filet de bœuf garni au primeur, chapon du Mans à la broche, salade, bombe glacée opéra, gaufrette, corbeille de fruits et friandises.
Et bon appétit.
Et parfois même avant le match. Moi, j'ai des anecdotes d'avant-match.
Ah oui.
Ah oui.
Ouh.
Ça devient difficile de courir après.
D'internationaux, hein.
Après, le rugby, ça reste un sport où la gourmandise est de rigueur et où l'on maîtrise l'art de la table. En fait, il suffit de regarder aussi le nombre de joueurs qui ont ouvert des bistrots, les anciens
beaucoup,
comme les actuels.
C'est vrai.
Serge Blanco, le Pelé du rugby, aujourd'hui la tête d'un restaurant à Hendaye. Trevor Brennan, joueur irlandais, champion d'Europe avec le Stade Toulousain qui est resté et ouvert deux pubs. Et encore à Toulouse, récemment, Mathis Lebel et Antoine Dupont, joueurs du Stade Toulousain, ont ouvert des restaurants.
Ouais, il y en a quelques-uns parfois qui m'appellent pour des conseils, je leur dis faites gaffe que je ne revienne pas dans le cadre d'une émission.
Cauchemar en cuisine, attention, Philippe Etchebest débarque. Et vice-versa d'ailleurs, hein, parce que de nombreux chefs, à commencer par Philippe, ne cachent pas non plus leur passion pour l'Ovalie. Il y en a une sacrée brochette.
Ouais, comme Gilles Goujon, ancien ailier et maintenant meilleur ouvrier de France, triplement étoilé pour son restaurant L'Auberge du Vieux Puy dans l'Aude. Guy Savoie, passé de talonneur à chef parisien doublement étoilé. Ou encore Christian Constant, Yves Candebord. Comme quoi, de demi-mêlée à cuisinier, il n'y a qu'un pas. Ou une passe.
Pas mal.
Le rugby et la cuisine partagent beaucoup de valeurs communes, ainsi que le vocabulaire. Je vous ai préparé un petit quiz, Philippe.
Ah, Philippe, il n'y a que des pièges hein, dans cette émission. Attention, vous vous en sortez bien pour l'instant.
Écoute, je donne tout. Hein,
vous êtes prêt?
Ouais, je suis prêt. Ouais.
Qu'est-ce que la soupe de phalange?
La soupe de phalange, bah c'est un coup de poing, non ?
Ah non, c'est un moment où on se fait un peu violenter pendant le match.
Ouais,
enfin,
c'est
quand ça se supporte.
À la fin, le résultat, il est le même. Hein. Je veux dire, t'as pris une torgnole dans la tronche. Hein,
oui, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Ouais. Ok, ça fonctionne. Un point pour vous. Faire une cocotte.
Faire la cocotte, c'est se regrouper et avancer comme ça.
Comme un môle.
Oui, comme un môle. Un môle, c'est un môle formé et il faut avancer comme ça. On appelait ça à Bègle la tortue bordelaise. C'est avancer comme ça quand ils ont été champions de France.
Bah, c'est bien ça, il a tout bon. Hein.
Il a tout bon jusqu'ici. Ouais. Je finirai par le caramel.
Un caramel, moi j'étais un spécialiste. C'est un gros tampon, là, bien comme il faut, là, dans les côtes. Tac. Ah, j'adorais ça. Moi, j'étais un gros défenseur.
C'est genre
j'adorais
un plaquage mes... un peu raide.
Ah oui, c'est un bon plaquage qui fait bien mal. Bon caramel.
Ok, 3 points.
Ouais, c'est ça. C'est
et bon. Juste une petite parenthèse, Philippe, le secret d'un bon caramel en cuisine cette fois-ci.
On verra peut-être tout à l'heure.
Ah, mais oui.
Justement,
il y a du caramel.
Alors moi, je mets un petit peu d'eau toujours dedans. Je le fais pas à sec le caramel. Moi, j'aime bien mettre de l'eau.
Très bien.
Ouais.
On va voir ça tout à l'heure. Attention, teasing autour de la recette de Philippe Etchebest. Je tiens à vous dire que c'est dans sa catégorie la meilleure du monde.
Oui, ça vous nous l'avez déjà dit.
Moi, je finirai avec quelques livres justement qui m'ont appris beaucoup de choses sur la cuisine et le rugby, parce que l'an dernier, à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, il y a quand même eu 3 grandes sorties en France de ces livres. La Grande Mêlée de Gilles Navarro, journaliste sportif au Bon Coup de Fourchette, paru aux éditions Solar. Le 15 passe à table de Philippe Toinard aux éditions de La Martinière. Mmh. Et 15 à table, le festin de la Coupe du Monde, paru aux éditions Hachette Pratique, de Frédéric Viard et Christian Etchebest, votre homonyme, Philippe.
Mmh, absolument.
Le rugby, c'est toujours une passion. Hein,
c'est toujours une passion, mais j'ai joué assez tard. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer et de jouer en première division et en deuxième division à Paris. J'avais des aménagements, on va dire. À l'époque, c'était amateur, mais j'ai joué jusqu'à l'âge de 27 ans. J'ai joué assez tard.
Et il n'y a pas que le rugby comme passion dans la vie de Philippe Etchebest.
Allez! Va Bordeaux! Ah, c'est bon! On est à la maison, on est chez nous!
Je crois que si j'avais pas été cuisinier, j'aurais été musicien. Batteur ou guitariste, mais bon, la guitare, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, il faut commencer assez jeune. Mais la batterie, oui, parce que j'aime le rythme. Et la batterie, déjà, c'est un moyen de sortir du quotidien, d'avoir à penser à autre chose, parce qu'il faut être très concentré. Et j'adore ça, je m'éclate. Je m'éclate avec ça.
Oh,
Philippe Etchebes, qu'est-ce qu'on avait dans les oreilles ?
Take Me Out de Franz Ferdinand.
Les masterclass dont va déguster sur France Inter.
Heureusement, Philippe Etchebes, que vous avez reconnu ce titre, parce que vous l'avez joué, si je ne m'abuse, à la Fête de la Musique en plein centre de Bordeaux le 21 juin 2019, avec votre groupe
Chef and the Gang.
Chef and the Gang. Alors, on sait que vous n'êtes pas trop mauvais au piano de cuisine, mais vous jouez aussi de la batterie, vous chantez même. Vous avez d'ailleurs plusieurs concerts programmés dans les prochains mois. On a mis toutes les dates sur notre site internet. Je vais essayer de venir le samedi 15 juin à Divat-sur-Loire pour le festival des caisses à savon. Ça m'amuse beaucoup.
Ça va être génial, ça va être très très chouette. Alors, la musique, oui, la musique. J'ai baigné dans la musique dès mon plus jeune âge. Maintenant, la musique, pour moi, c'est une vraie bulle d'air. C'est un moyen d'évacuer et puis de passer un bon moment avec les copains. Alors, mon métier, c'est la cuisine et puis je passe beaucoup de temps quand même dans mes restaurants. Mais dès que je peux m'échapper, ça fait du bien. Donc je fais une petite dizaine de concerts comme ça dans l'année. Et c'est toujours à vocation d'aider et de faire du bien, puisque c'est pour les pompiers solidaires qu'on joue. À chaque fois, donc, on a des petits résultats. Ben, on fait des donations à mon association, Pompiers Solidaires. Donc je suis parrain depuis 12 ans maintenant, et pour les aider à faire des missions humanitaires à travers le monde.
Pendant le titre de Franz Ferdinand, vous avez interpellé notre cadreur qui appartient à la cellule vidéo de France Inter, Loïs. Oui, parce qu'il porte quel t-shirt, ça vous a marqué?
Un magnifique t-shirt du Hellfest qu'on a eu, on a eu la chance d'y jouer deux fois dans ce festival, et c'était une expérience incroyable. On a fait des beaux trucs avec le groupe, on a joué, on a fait la première partie d'Indochine aux Eurockéennes. Moi je me débrouille comme je peux derrière, avec le temps que j'ai, mais j'ai deux super guitaristes, j'ai
vous un clavier. La pression avant de monter sur scène?
Ah si si, ouais, franchement quand même, parce que c'est pas mon domaine, et puis voilà, il faut être très concentré malgré tout et envoyer beaucoup d'énergie, mais c'est un moment très intense, un moment de plaisir que je fais d'abord pour moi. C'est peut-être très égoïste, mais comme tout d'ailleurs, je fais les choses pour moi, mais j'essaie de le transmettre après aux autres et de le partager.
Et je crois savoir que pour vous défouler, vous jouez de la batterie dans votre maison en Dordogne, à la campagne.
Aussi, oui.
Mais alors, quand on cherche un peu des indices sur votre vie privée, vous êtes assez discret, Philippe Etchebest. On a l'impression que c'est difficile de pénétrer dans votre jardin secret, on n'en saura pas tellement plus. Mais sur votre épouse, bon, c'est quand même qu'elle s'appelle Dominique.
La vie privée, c'est la vie privée.
Vous avez un fils adoptif quand même,
oui,
vous en avez parlé.
C'est l'intime, alors j'en parle effectivement, je parle de mon épouse, je parle de mon fils. Mon fils, je ne
Oscar
le montre
Louis.
Jamais. Oscar Louis, oui, je ne le montre jamais. Il n'est jamais sur les réseaux. Les réseaux restent essentiellement pour le professionnel. Voilà, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Après, Dominique, j'en parle beaucoup du côté professionnel parce que c'est...
Elle travaille à vos côtés.
C'est mon binôme. On travaille ensemble. C'est la directrice générale du groupe. Aucune décision ne se prend sans elle. C'est pour ça aussi que je peux me permettre de faire d'autres choses, et notamment de faire de la télévision, parce qu'elle gère après au quotidien les deux restaurants que nous avons. Donc, on forme un vrai binôme tous les deux, et c'est très confortable de travailler avec sa moitié comme ça, voilà. C'est une vraie fierté aussi.
Dominique a mis son nez dans ce bouquin ?
Bien sûr, bah elle y regarde, elle assistait aux vidéos. C'était pendant le confinement qu'on avait fait ces recettes-là aussi, donc elle était là, bien sûr.
Cuisiner, bien accompagner, avec ma méthode mentor, transmission, accessibilité, engagement, aux éditions Albin Michel, déjà 200 000 exemplaires vendus. Autant dire que dans le paysage éditorial français, il y a peu de livres qui se vendent aussi bien. Et ce n'est pas étonnant, car on y trouve une bonne centaine de recettes. Il y a des basiques, il y a tout ce qu'il faut en fait pour progresser. Il y a une méthodologie que vous avez d'ailleurs tout à fait mise au point. On apprend notamment à ranger son frigo, à réorganiser sa cuisine, à acquérir les bons ustensiles. On apprend aussi... à faire la meilleure île flottante. Hein.
Alors, île flottante et pas que, mais alors, je tiens aussi à saluer Charles Toulza, qui est mon beau-fils, qui a œuvré pour ce livre. Les mots qui m'étaient donnés, c'était « facile, pas cher du quotidien ». Et à partir de ça, j'ai dû faire des recettes. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que c'est pour ça que ça marche, parce que c'est pas, y a pas de produits qui peuvent faire peur, rédhibitoires. On peut vraiment trouver très facilement. C'est accessible à tout le monde. Il y a une vraie méthode. Il y a une vraie méthode. C'est un vrai guide pratique. Au-delà d'un livre de recettes, effectivement, bien ranger son frigo, c'est important. Avoir un bon économat, être bien organisé, parce que la cuisine, à un moment donné, ça peut être une corvée. Mmh. Alors que si on fait les choses correctement, ça peut être un vrai plaisir. Donc cette méthode permet justement de pratiquer la cuisine dans de bonnes conditions. sélection, de choisir les bons produits, de respecter les saisons, c'est aussi très important. Donc d'acheter au bon prix aussi, et ça j'y accorde beaucoup d'importance.
Et les recettes sont particulièrement bien expliquées, c'est vraiment un livre indispensable pour ceux qui veulent s'initier en cuisine, même les débutants,
pour ceux qui démarrent à zéro. Et c'est appuyé par les vidéos en fait.
Sur votre chaîne YouTube.
Alors c'est gratuit, hein, bien sûr, on peut accéder à ces recettes et s'appuyer avec le livre. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, je sais que la moyenne des recettes, sur toutes les recettes qu'on a fait, elles sont vues plus de 500 000 fois. Il y a eu 27 millions de vues l'année dernière. J'ai les rapports que j'ai, moi, de Google.
Et vous savez, recette qui a gagné le record sur votre chaîne YouTube?
Oui, bien sûr. La blanquette de veau. Vous savez 4 200 000, je crois, c'est
4
ça?
4 millions 200 000 vues. 4 millions 200 000 vues. Blanquette de veau, ouais. Quel est son secret?
La touche finale, la crème.
Ah, je pensais que vous alliez dire le trait de citron ou la liaison au jaune d'œuf.
Non, on peut mettre une pointe de citron, on la met avant. Mais en fait, mon astuce, c'est la crème fouettée.
Intéressant.
C'est mettre de la crème fouettée dedans, ça ramène de l'onctuosité, ça enveloppe les morceaux, ça donne une légèreté à la blanquette et une texture qui est extrêmement savoureuse.
Vous utilisez quel morceau du veau?
Oh, l'épaule, partie simple, l'épaule.
J'ai pas encore goûté votre blanquette, Philippe.
Non, elle est bonne.
Je viens quand en Dordogne?
Allez, quand vous voulez, François, vous êtes le bienvenu, vous savez très bien.
Oui, c'est pas loin de la maison aussi.
Oui, c'est ça. On va s'organiser.
Vous amenez le vin.
Philippe, hein, je m'arrête. Ouais, puis, je m'apporte le vin, pour la blanquette. Ouais.
J'ai divulgué la recette que vous nous préparez à la plaque de cuisson, cher Philippe Etchebest. Il s'agit donc de l'île flottante. Et sincèrement, je l'ai goûté à deux reprises dans le cadre de l'émission Top Chef, mais également dans un cadre un peu plus privé. Et je dois dire que j'ai été à chaque fois ébahi par cette île flottante. J'en connais pas de meilleure. Je vous le dis sincèrement, je l'ai déjà déclaré d'ailleurs. Et vous avez tenu à la préparer vous-même, votre île flottante, au sein de la maison de la radio d'ailleurs, dans les cuisines de nos amis de Radio Hit,
oui,
qui est la brasserie, hein, au premier étage de la maison de la radio. Merci d'ailleurs à la chef pâtissière Laura Dumay de nous avoir prêté son matériel. Vous avez cuit d'abord, vous avez pris un peu d'avance, hein, vous avez cuit vos blancs en neige.
Oui, je suis venu un petit peu avant. J'ai d'abord fait mon caramel.
Et vous avez fait votre caramel.
Première chose, c'est le caramel, c'est important. Et après, j'ai monté les blancs, j'ai cuit les blancs. Et ensuite, j'ai confectionné la crème anglaise, mais que je vais refaire apparemment tout à l'heure. C'est ça, hein?
Maintenant même.
Oui, maintenant.
Et vous avez même le droit de vous lever et de rejoindre la plaque de cuisson,
allez,
Philippe.
C'est parti. Mon tablier. Pour un tablier, un torchon, sinon je peux pas cuisiner.
Et je tiens à remercier Loïs pour le cadre, Julien Thévenot, le perchman, puisque vous retrouverez sur les réseaux sociaux de France Inter cette recette en vidéo, depuis les blancs en neige jusqu'à la crème anglaise en passant par le caramel. Alors vous nous expliquez tout ce que vous
donc
faites,
déjà,
Philippe.
Je vais mettre crème fleurette et du lait à bouillir dans lequel j'ai mis des gousses de vanille égrenées. Donc ça, on va faire chauffer, on va faire bouillir. Ensuite, je vais
toutes les proportions sur le site de l'émission.
Absolument, c'est même sur le livre.
Et c'est sur le livre, évidemment.
On peut voir qu'il y a beaucoup de vanille. Hein.
Il y a 4 gousses de vanille,
ouais,
pour un litre. C'est correct. Alors, c'est vrai que dans le livre, par exemple, je ne mets pas de vanille dans le livre. Mais le principe des recettes de Mentor, c'est facile, pas cher du quotidien. La vanille coûte cher. Donc j'explique à la fin de la recette, bien sûr, la crème anglaise se fait de la vanille. Quand on en a, c'est bien. Si on n'en a pas, on peut quand même faire la crème anglaise, même sans vanille. Voilà, je vais blanchir les jaunes, le sucre et l'intérieur, les graines de vanille. Alors, je vais bien blanchir. Moi, j'aime bien blanchir les jaunes. Je vais faire doubler de volume pendant que ça chauffe.
Pendant que le lait et la crème chauffent dans la marmite, dans la casserole.
Quand ça bout, je vais verser la moitié dans mes jaunes blanchis. Et ensuite, je vais reverser l'appareil dedans et j'en ai pour même pas une minute de cuisson. Ça va aller très très vite. Je suis pas loin du tout, je suis au taquet. Voilà, tac. Alors, je verse la moitié. Hein ?
Donc le mélange, la crème est arrivée à ébullition, la moitié dans le cul de poule avec les jaunes, le sucre, la vanille.
Et ensuite, je vais verser le reste, tout l'appareil que j'ai mis là, dans ma gamelle. Hein ? Je vais mélanger. Je vais vanner. Vanner, c'est faire cette action. Alors, faut pas, surtout pas que ça boue.
Définition de vanner ?
C'est important. Voilà, c'est ce geste-là, avec la spatule. Alors, on peut faire ça avec une spatule.
Un geste en 8 ?
Spatule, c'est ça. Faire un 8 dans la casserole. On peut se servir d'un thermomètre. Moi, j'aime pas trop les thermomètres. J'aime bien. Je suis un peu à l'ancienne. Hein. C'est comme les cuissons. J'aime bien le toucher. J'aime bien le visuel. Voilà, là, elle commence à épaissir. Voilà. Et là, elle va être prête. Je vais la débarrasser. Faut surtout pas que ça boue, sinon ça va grainer. Là, je vais voir avec ma rise ou ma spatule, comment elle se comporte. Hop, je mets le doigt et la trace doit rester.
Sur la spatule.
Sur la spatule. Et voilà, je débarrasse aussitôt la crème,
oh là là,
dans mon récipient.
Quelle onctuosité.
Et c'est terminé.
Merci, au revoir. Rodriguez, père et fils. Hey,
hey. Mais comme vous avez pris de l'avance, figurez-vous que la vie est bien faite. Nous
bien
avons
sûr.
Une île flottante déjà dressée, toute
Mais
faite.
Mais bien sûr, elle est là. Mais quand même, je veux vous la faire goûter avec la crème anglaise chaude.
Ouais.
Parce que c'est pas dégueulasse non plus avec la crème anglaise chaude.
Oh, génial. Alors là, vous avez fait cuire vos blancs au bain-marie.
Au bain-marie.
Après les avoir montés.
Au four. Et là, je fais un petit appel d'air. Petit appel d'air qui va bien. Yes.
Oh là là, quelle beauté.
Tac. Voilà. Bon, ça, c'est pour vous.
Merci.
Ok.
C'est la première fois que je goûte une île flottante avec une crème anglaise encore chaude. C'est comme un pas dans la neige fraîche. Le bruit de ses œufs mousseux. Oh. Non mais sans blaguer, c'est délirant.
Il y en aura pour vous. Hein.
On va servir notre public parce que vous allez voir des îles flottantes comme ça. Vous n'allez pas en goûter beaucoup. Bonjour Isabelle, vous nous venez d'où ?
De Magny-les-Hameaux dans les Yvelines.
Vous avez une petite envie d'île flottante ?
Ah, j'ai toujours une petite envie d'île flottante.
Eh bien, dégainez votre cuillère et allez-y, petit commentaire, chère Isabelle.
Les blancs sont très très moelleux, incroyablement. C'est la première fois que je déguste une île flottante avec une crème anglaise qui est encore un petit peu chaude.
C'est étonnant, ça
et
marche
très
bien.
C'est très étonnant,
sûr,
ouais. C'est délicieux.
Bien
délicieux.
Sûr, ça marche.
C'est quoi le secret de ces blancs justement aussi nuageux ?
Mon père faisait des îles flottantes comme ça en fait, au Chipiron. On faisait un chariot de dessert, et de sur le chariot il y avait la tarte tatin, il y avait l'île flottante, il y avait la crème caramel, enfin des grands classiques, moi tout ce que j'aime en fait, c'est des desserts régressifs. Et mon père faisait il cuisait le blanc comme ça. Alors moi j'ai revu un peu la crème anglaise, j'ai rajouté de la crème fleurette parce que ça donne un peu plus de texture, mais la cuisson des blancs c'est ce bloc qui était cuit comme ça au four.
Donc parce que là on parle quand même d'une grande île flottante, c'est pas des îles flottantes individuelles.
Oui.
Vous prenez un moule en pyrex d'au moins 25 cm de diamètre.
À peu près, j'écoule du caramel au fond,
oui.
D'accord, je laisse refroidir, et ensuite je monte avec une spatule, justement, je fais un gros bloc de blanc et je cuis au four au bain-marie pendant, en fonction de la grosseur, ça va de 8 à 12 minutes.
Jérôme, il a l'air de se régaler, ça va ?
J'ai pratiquement terminé mon assiette, si vous pouvez éviter de me déranger pendant que je mange le dessert, ce serait pas mal. C'est assez diabolique. Alors déjà, il faut bien dire que la crème anglaise est d'anthologie. Elle est exceptionnelle, cette crème anglaise. Elle est onctueuse, elle est très intense, elle est absolument admirable. Elle n'est pas trop sucrée, mais
pas trop sucrée, c'est important, ça aussi, bien sûr.
Oui, mais elle l'est suffisamment quand même pour soutenir l'aromatique. Voilà. Et les blancs sont à la fois présents et très, très, très aériens.
Évanescents. Ah, moi, franchement, vous m'avez fait. Je suis au Nirvana. Notre public a l'air très heureux parce que là, les îles flottantes sont en train de circuler. C'est devenu votre île flottante, c'est devenu un archipel avec plein de petits îlots un peu partout dans notre studio. Il est quand même venu ce matin assez tôt pour préparer sa crème anglaise. Il la délègue pas, sa crème anglaise. C'est lui
non,
qui l'a fait.
Mais en vrai, j'ai mis 30 minutes à la faire. Hein, ça va très très vite. Alors ce qui est rigolo, la petite histoire sur l'île flottante, c'est que j'ai décidé à travers le documentaire Un chef au bout du monde, de faire systématiquement une île flottante, quelles que soient les conditions, parce que c'est peut-être une des rares recettes où on peut, même sans four, on peut faire une île flottante. À partir du moment où on a des œufs, du lait et du sucre, on peut faire une île flottante. C'est
une
très
île flottante
facile.
Dans l'archipel polynésien, c'est pas mal.
Ouais.
Île sur île. Très très bien. Ben, merci beaucoup Philippe Etchebest.
On va déguster sur France Inter.
Jérôme Gagnès, je le disais en préambule de cette émission, vous êtes le voisin bordelais de Philippe Etchebest, mais comme vous avez un peu l'esprit de contradiction, vous êtes dit que ça allait faire du bien à notre Philippe de lui administrer une petite cure de...
De Bourgogne.
Non, alors, j'adore le Bourgogne.
Alors, l'idée,
c'est pas une punition,
en fait,
hein.
Non, non, je sais bien, Philippe, que c'est pas une punition. Non, l'idée d'abord, c'était de dire un mot sur la carte des vins de Maison Nouvelle, qui avait nul besoin de conseils ou de quoi que ce soit. Elle est très très bien, cette carte des vins. C'est une belle carte des vins.
Vu,
bah, oui,
ouais.
Je l'ai vue, elle est complète. Ouais. J'avais absolument rien à dire dessus, si ce n'est qu'elle est très bien. Je voulais en fait faire écho au classicisme de cette recette, faire écho au classicisme de votre livre, par un vin que je considère comme étant un grand, grand classique de la Bourgogne. Bourgogne Sud, certes, mais un grand classique de la Bourgogne, et qui incarne pour moi ce que devraient être plus souvent les vins de Bourgogne blancs aujourd'hui. Petit coup de gueule sur la quantité de vin blanc maigrichon, mince, étayé par un élevage bois qui fait office de matière dans le vin. Donc autrement dit, il n'y a pas beaucoup de vin, il y a beaucoup de bois. Et la Bourgogne est en train de s'adonner un peu à ce jeu depuis quelques années sur les blancs. Je le déplore. On trouve de plus en plus, avec de plus en plus de difficultés, des grands blancs puissants, amples, qui sont l'apanage de la Bourgogne. Et je le regrette infiniment. Et bien justement, nous avons ici une famille de vignerons qui s'appelle les Thévenets. Jean et Gauthier Thévenet, Jean c'est le père, Pierre Gauthier, c'est le fils. Et Jean et Gauthier sont à la tête du domaine de la Bongrand. Et ce domaine est un domaine historique, très ancien, de Viré-Clessé, de l'appellation Viré-Clessé, qui elle est plutôt récente, puisqu'elle date du début des années 2000. Elle consacre en fait un petit secteur qui s'appelle Quintaine, le hameau de Quintaine. C'est une centaine d'hectares de vignes, ça n'est pas beaucoup. Et c'est un territoire qui se singularise par une présence de marne blanche. C'est un type de sol. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais simplement, ça confère au vin une densité particulière. Et il y a, chez Jean et Gauthier, ce que j'aime beaucoup, au domaine de la Bongrand, dans la cuvée Émilien Gillet, en appellation Viré-Clessé, il y a la quintessence de ce qu'est ce terroir de Quintaine, c'est-à-dire que ça donne des vins qui sont amples, qui sont puissants, il y a de la concentration. L'aromatique, le nez, on le reconnaît entre mille, parce que quand on met le nez dans le verre, on a ces notions d'agrumes confits, on a ces notions parfois de coin confit sur certaines cuvées qui sont un peu plus poussées en maturité. Et il y a en bouche un vin qui a l'opulence du raisin mûr, du grand chardonnay mûr, sans jamais tomber dans la lourdeur ni dans le caractère saturant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces vins. Je pense que ça fait partie des grands Bourgognes blancs. Et je salue le travail de la famille Thévenet parce que finalement, ils sont très anciens. Ils sont là, ils font partie des meubles à Quintaine. Mais on ne parle pas suffisamment d'eux parce que ce sont des gens qui font des vins exceptionnels. Je vous ai apporté en plus, qui vient de ma cave personnelle, pour Philippe, parce que ça s'accordera très très bien avec l'île flottante, une cuvée rarissime de chez eux. C'est une tradition à Quintaine, on faisait des vins botrytisés, parce qu'il y a un microclimat qui permet de faire des vins avec de faire des grands liquoreux. Grand liquoreux de Chardonnay 2006.
Dégustation, Philippe Etchebest. Ouais. D'abord, vous connaissez ces vignerons.
Juste une petite anecdote sur Jean Thévenet. Il y a 30 ans, c'était un des premiers grands repas que je faisais avec ma femme. J'étais chez la famille Trois Gros à Roanne. Et j'aime beaucoup goûter les vins à l'aveugle quand je vais au restaurant. Ça me fait un exercice, ça me fait travailler. Le sommelier me sert un vin, je déguste, premier plat. Et je lui dis, Jean Thévenet, Mâcon Clessé. C'était Mâcon Clessé à l'époque. Mâcon Clessé. Et mon gars, il me fait, bravo. Dominique.
Vous avez de bons yeux,
Dominique. Non, Dominique ne dit rien. Et à la fin du repas, elle m'a dit, t'étais de mèche avec le sommelier. En fait, je te jure que non, je n'étais pas de mèche. J'ai reconnu parce que j'adore ce vin-là. Ouais. C'est effectivement pour moi un des meilleurs Bourgognes qui existe.
Il l'a même pas fait exprès, Jean-Michel.
Non, je le savais pas. Je suis très heureux de vous faire plaisir.
C'est superbe et merci parce que j'aime beaucoup ce vin-là et ce personnage aussi. C'est assez incroyable. Donc, en plus, je crois que j'ai réussi à séduire peut-être Dominique avec ma connaissance sur le vin parce qu'elle était impressionnée. Elle me dit ah, c'est pas vrai.
Et qu'est-ce que vous pensez, Philippe, de la version liquoreuse botanique?
C'est bien. Alors, c'est vrai que les liquoreux, parfois, sur les fins de repas, c'est un peu compliqué. Mais là, il y a une vraie fraîcheur derrière. Et effectivement, avec l'île flottante, ça peut bien matcher. On n'est pas trop dans le sucre non plus dans l'île. Et c'est très, très bon.
On finit. Ouais.
Merci, hein. Merci en tout cas.
Ouais, c'est un beau cadeau. Allez, on finit par une dernière petite question, Philippe, parce que le temps presse. Ah. Vous êtes évidemment chef, vous n'avez pas perdu de vue votre métier d'origine puisque vous dressez le couvert au sein de l'Opéra de Bordeaux, place de la Comédie, avec le quatrième mur qui comporte une brasserie à succès. Le quatrième mur, mais également une table d'hôte.
La table d'hôte.
Et puis vous avez ouvert en 2021 le restaurant gastronomique Maison Nouvelle dans le quartier des Chartrons, toujours à Bordeaux, évidemment, étoilé en 2022. Est-ce que le format de la table d'hôte, avec quelques convives seulement autour d'un meuble commun, pourrait préfigurer l'avenir d'une certaine gastronomie, une nouvelle expérience dans la haute cuisine?
Alors, en tout cas, c'est une vraie expérience. Et quand j'ai créé cette table, 2 ans après l'ouverture de la brasserie, ça a été un vrai pari de concentrer tout finalement sur l'assiette, sans qu'il y ait de décor autour, puisqu'on est dans une petite cave et juste devant la cuisine. Par contre, de mettre l'accent sur le côté la cuisine vient à votre table, c'est un show culinaire. Il y a des flambages, il y a des découpes, on fait participer parfois les gens, c'est participatif. Je l'annonce toujours au début du repas, c'est de la convivialité, c'est du partage. Ici, on s'amuse et on prend vraiment du plaisir. Donc c'est tout l'intérêt de cette table, à la fois de faire découvrir des produits de niche de la région, parce que je m'y attelle beaucoup à travailler avec des producteurs locaux, et sur une table de 10, c'est très facile. Et en plus de ça, de faire en direct vraiment les plats devant les gens, donc ils regardent tout ça. Des fois, on éteint la lumière, on fait des flambages à l'orange, on fait des trucs assez improbables, et ça marche plutôt bien. Franchement, je suis très fier.
L'île flottante, on peut la déguster dans vos établissements?
Alors, l'île flottante, on la déguste à Maison Nouvelle à la fin du repas, quand les gens reviennent au bar. C'est une expérience un peu immersive
dans ma maison, entre guillemets. Et à la fin du repas, au café, donc, il y a cette petite île flottante qui arrive comme ça et qu'on fait déguster. C'est
chanceux
un vrai plaisir.
Chanceux sont vos clients. Et qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour la suite de vos aventures?
Plein de bonnes choses. Et si je peux me permettre, François, j'aurais un truc à vous dire, mais on est d'accord que ça ne sort pas d'ici. De toute façon, on est peu écouté.
Oui, il n'y a personne qui écoute.
Oui, personne qui écoute.
Deux, trois auditeurs.
C'est sur un petit projet que j'ai à Bordeaux. On avait fait un essai pendant la Coupe du Monde de rugby. Ça s'appelait Signature. Et pour la bonne et simple raison que c'est en référence avec la raviole de foie gras, mon plat signature. On avait fait un pop-up pour finalement rendre accessible ce plat au plus grand nombre. Donc on a fait une formule comme ça à emporter, une formule raviole comptoir, très accessible et très facile. Et ça a bien marché. Donc au courant juillet, on va ouvrir aller de tournée. Un signature, on pourra venir manger pour moins de 20 euros en fait.
Mais nous en serons.
Le ravioli salé et une version sucrée aussi avec une petite salade, un truc hyper simple à Bordeaux, absolument.
Et ben, j'y serai en juillet à l'Etourny.
Ouais, et ça va être génial, franchement génial.
Et ben merci pour ce beau projet, Philippe Etchebest. Merci pour votre générosité. Merci. Je rappelle votre livre best-seller dont votre maison d'édition Albin Michel fait paraître une nouvelle édition augmentée. Cuisiner bien accompagné avec ma méthode mentor. Merci à vous, cher public.
Merci.
La semaine prochaine, notre émission plonge à fond dans la culture bistrot, histoire, recettes et surtout, nous allons vous dévoiler nos meilleures adresses de bistrot tradis que nous avons testées et retestées à Paris, n'est-ce pas Jérôme Gagnon?
Ah, tout à fait, j'ai fait partie de cette équipe avec beaucoup beaucoup de plaisir et j'ai redécouvert des bistrots et j'ai confirmé des bistrots que j'adorais et je crois que mon bistrot préféré est dans le top 3.
Oui, mais on n'en dit pas plus surtout. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.
Allez.